Chapitre 18. Un étroit passage. Beaucoup de clients tournèrent la tête vers moi, Rain, lorsqu'elle revint dans la salle commune, et elle lut de la sympathie dans bien des regards. À l'évidence, ces gens imaginaient sans peine ce qu'on pouvait éprouver quand trois Aes Sedai vous prenaient pour centre d'intérêt, et ils se doutaient que ça n'avait rien d'agréable. En revanche, moi, Rain, ne lut aucune compassion sur le visage des sœurs, qui ne lui manifestèrent d'ailleurs guère d'intérêt. Fela Anna affichait un sourire béat, comme si elle pensait que le nom de Dame Alice, grâce à elle, serait bientôt inscrit dans le registre des novices. Si elle réagissait ainsi, elle ne soupçonnait pas la vérité, et c'était une excellente chose. Avoir l'espoir d'échapper encore un moment à Sierine mit du baume au cœur à la fugitive. Autre point positif, Katswane n'était nulle part en vue. Idem pour Larel et Méréane. Alors qu'elle se frayait un chemin entre les tables, Moiraine se sentait plus désorientée que jamais. Trop de questions se posaient sans que l'ombre d'une réponse se profile. Si Siouan avait été là... Douée pour résoudre les problèmes, elle ne se laissait démonter par rien. En s'appuyant sur elle, Moiraine aurait sans nul doute recouvré son équilibre. Entr'ouvrant la porte de l'auberge, une jeune femme jeta un coup d'œil dans la salle commune, puis recula promptement. De surprise, Moiraine faillit trébucher. Hélas, elle le savait, à force de vouloir quelque chose, on pouvait prendre ses désirs pour la réalité. La jeune femme recommença son manège et, cette fois, sa capuche glissa légèrement en arrière. C'était bien Siouan, robuste comme à l'accoutumée et superbement belle dans une des robes d'équitation bleue de Tamoré. Cette fois, elle repéra Moiraine. Mais au lieu d'entrer et de courir vers elle, la fille de pêcheur lui fit signe de sortir et disparut de nouveau. Le cœur battant la chamade, Moiraine mit sa cape et sortit. Dans la rue, Siouan slalomait entre les passants en jetant un coup d'œil derrière elle tous les trois pas. Un conducteur de chariot dut faire un écart pour l'éviter. Furieux, il fit claquer son fouet au-dessus de la tête de cette jeune imprudente. Siouan ne s'aperçut de rien. Imperturbable, elle continua son chemin. De plus en plus inquiète, Moiraine accéléra le pas. Avant de pouvoir donner sa démission à Cetalia, Siouan aurait encore besoin de 3 ou 4 ans, le temps d'acquérir le statut nécessaire. Cetalia avait-elle pu la libérer d'elle-même? Autant espérer qu'il neige le jour de la fête du soleil. Donc si Siouan était à Kanloum... Moiraine gémit d'angoisse. L'entendant, un vendeur ambulant qui proposait des épingles à cheveux lui jeta un regard inquiet. Elle le foudroya du regard, l'incitant à aller voir ailleurs si on avait besoin de lui. Siouan s'était-elle trahie? Avait-on découvert son carnet rempli de noms? Ou encore... Non, les détails importaient peu. Si Sierine avait tout découvert, elle était bien du genre à charger Siouan de ramener au bercail la brebis égarée. Ainsi, durant le voyage de retour, les deux coupables auraient tout le temps de s'angoisser et d'imaginer le pire. Moiraine délirait peut-être, mais elle ne parvenait pas à s'enlever de la tête des idées de plus en plus noires. À 100 pas de l'auberge, Siouan regarda encore une fois derrière elle, attendit d'être sûr que Moiraine l'avait vue, puis s'engagea dans une venelle latérale. Son amie la suivit sans hésiter. Quand elle fut enfin dans les trois passages, Moiraine vit que Siouan faisait nerveusement les 100 pas sous une rangée de lampes encore éteintes à 7 heures de la journée. La robe bleue froissée et tachée de poussière confirma à Moiraine que son amie arrivait tout juste de voyage. Alors que rien ne l'ébranlait d'habitude, la jeune femme lut de la peur dans les yeux de sa compagne.
« Par la lumière, j'ai bien cru ne jamais te trouver !»
s'exclama Siouan, empêchant Moiraine de la bombarder de questions au sujet de Sierine.
Mon ami, dis-moi que tu l'as localisé. C'était le petit Najima, pas vrai? Et nous allons pouvoir le confier à la tour, sous le regard d'une 100 sœurs. Ainsi, tout sera terminé.
Une 100 sœurs? Ça, ce n'était pas du tout le style de Sierine.
Non, Siouan, ce n'était pas lui. Que se passe-t-il? Pourquoi es-tu venu en personne, au lieu de m'envoyer un message?
Siouan ne put retenir ses larmes. Alors qu'elle avait un cœur de lion et une âme de tigresse, elle pleurait comme une enfant. Enlaçant Moiraine, elle la serra assez fort pour que la pauvre en ait mal aux côtes.
« Je ne pouvais pas confier un tel message à un pigeon voyageur !»
souffla Siouan, tremblant comme une feuille.
« C'était trop risqué. Moiraine, elles sont toutes mortes. Aïcha, Keren, Valera, Ludis et Meiline. » On dit qu'Aïcha et son champion ont été tués par des bandits au Mourandi. Keren serait tombée d'un bateau pendant une tempête, se noyant dans la rivière Algenia. Meiline,
Moiraine rendit son étreinte à Siouan et la consola de son mieux.
« Siouan, les accidents arrivent. Les Aes Sedai meurent comme tout le monde, tu sais. »
Parfois, croire en ses propres mensonges était au-dessus des forces d'un être humain. Toutes les enquêtrices, en si peu de temps, comme disait son père, une fois, ça pouvait être le fruit du hasard. Deux fois, une simple coïncidence. Mais à la troisième occurrence, il fallait y voir la main d'un ennemi. Un aphorisme qu'il avait lu quelque part, affirmait-il. Peut-être, mais quel ennemi dans le cas présent? Une idée traversa l'esprit de Moiraine, mais elle la rejeta. Certaines choses n'étaient pas envisageables, tout simplement. Siouan s'écarta de Moiraine.
« Tu ne comprends pas. Meilin. »
La jeune femme s'essuya les yeux.
« Par les entrailles d'un poisson géant. Je dis n'importe quoi. Allons, espèce d'idiote. Reprends-toi et parle clairement. »
Après s'être ainsi sermonné, Siouan guida son ami jusqu'à un tonneau renversé, lui fit signe de s'asseoir et se débarrassa de son sac à dos qu'elle posa par terre. Si elle n'avait pas d'autre bagage, elle devait avoir emporté une tenue de rechange. Et encore, peut-être pas complète.
« Pour entendre ce que j'ai à dire, » expliqua-t-elle à Moiraine, « il vaut mieux que tu sois assise. D'ailleurs, je crois que je vais m'asseoir aussi. »
Siouan alla récupérer une caisse à moitié cassée, la plaça sur le petit côté, s'assit, tira sur sa robe, jeta un coup d'œil vers l'entrée du passage et marmonna au sujet des gens qui osaient la regarder. Cette façon de différer le moment de vérité ne fit rien pour apaiser Moiraine. Quand elle se décida, Siouan parut avoir du mal à prendre son souffle, comme si elle avait envie de vomir.
« Meilin est revenue à la tour il y a environ un mois. Je ne sais pas pourquoi. Elle n'a pas dit d'où elle venait, ni où elle avait l'intention de partir après un séjour de quelques nuits. J'ai appris la fin de Keren le matin de l'arrivée de Meilin. Les autres décès ont été connus un peu avant. Du coup, j'ai décidé de parler à Meilin. Ne me regarde pas comme ça. Je sais être prudente.
Prudente, Siouan ? Moiraine aurait volontiers éclaté de rire. Elle s'en abstint, parce que son hilarité aurait pu finir sur des sanglots. Tout ça était absurde. Il fallait que ce ne soit pas vrai. Une nouvelle fois, elle étouffa dans l'œuf le même terrible soupçon. Il devait y avoir une autre explication.
Bon. Je me suis introduite dans sa chambre et cachée sous le lit, pour que les femmes de ménage ne me voient pas quand elles viendraient le faire. Bien entendu, j'ai fini par m'endormir. La lumière de l'aube m'a réveillée, et Meilin, ai-je constaté, n'avait pas dormi dans son lit. Je suis sortie discrètement. À cette heure de la journée, ce n'est pas facile, mais je suis sûr que personne ne m'a vu. Alors que je prenais mon petit déjeuner au second service, Chesma Lemri est venue annoncer la mort de Meilin. Dans son sommeil, a-t-elle dit. Les domestiques l'ayant trouvée dans son lit.
Siouan se tut, accablé. Moiraine se félicita d'être assise. Avec des jambes en coton, ça valait mieux. Quelle folie! Un meurtre à la tour blanche.
L'âge rouge,
souffla-t-elle. Une Aes Sedai rouge pouvait tuer une sœur, si elle la soupçonnait de protéger un homme capable de canaliser le pouvoir. Donc c'était possible. Mais elle ne put pas dire à voix haute cet argument, parce qu'elle n'y croyait pas elle-même. Siouan ricana.
Meilin ne portait aucune trace. Des sœurs jaunes l'ont examinée. Elles auraient détecté un empoisonnement ou une mort par étouffement. Faute de découvertes troublantes, elles ont conclu à une mort naturelle. Moi, je sais que c'est faux. L'histoire de la découverte du corps ne tient pas. Je suis bien placé pour l'affirmer. Et pas de traces. Tu sais ce que ça signifie. Le pouvoir, Moiraine. Même une sœur rouge n'irait pas jusque-là. Enfin, je crois.
Siouan semblait avoir repris du poil de la bête. Mais elle ramassa son sac à dos et le serra contre elle, comme si elle voulait se cacher derrière. Cela dit, elle paraissait plus furieuse qu'apeurée. Et c'était déjà un progrès.
Réfléchis, Moiraine. Tamra aussi est prétendument morte dans son sommeil. Mais nous savons que, pour Meilin, c'est une mise en scène. D'abord Tamra, puis ses enquêtrices. Je ne vois qu'une explication. Quelqu'un s'est aperçu que la chair d'Amirline avait recruté des femmes pour une mission. Afin de savoir pourquoi, cette personne a interrogé notre ancienne dirigeante. Puis elle l'a éliminée. Pour agir ainsi, il faut avoir quelque chose de sacrément important à cacher. D'autant plus que ça a continué avec les enquêtrices. Quelqu'un ne veut pas qu'on retrouve le garçon vivant, Moiraine. Quelqu'un entend que le dragon réincarné ne participe pas à l'ultime bataille. Croire autre chose revient à vider un pot de chambre contre le vent, en espérant ne pas être éclaboussé.
D'instinct, Moiraine jeta un coup d'œil vers l'entrée du passage. Quelques badauds leur jetaient un coup d'œil, mais sans vraiment s'attarder. Songeant à l'exposé de Xuan, Moiraine se dit qu'il était décidément plus facile d'asséner certaines vérités quand on ne se montrait pas trop spécifique. Quelqu'un avait torturé la chair d'Amerline. Quelqu'un l'avait éliminée. En évitant en plus d'utiliser le prénom de Tamra, l'horreur était un peu plus facile à supporter. Interroger quelqu'un en utilisant le pouvoir ne violait aucun des trois serments. En revanche, tuer avec le Saïdar était proscrit. Même pour les coupables dont Moiraine n'avait, pas plus que Xuan, aucune envie de préciser l'identité. Pourtant, elle s'y força.
La Jeanne Noire.
Xuan sursauta, puis acquiesça. Toute sœur digne de ce nom sortait de ses gonds, si on mentionnait devant elle l'existence du huitième Aja, dévoué aux ténébreux, ou refusait d'écouter dans le meilleur des cas. Depuis 3000 ans, la Tour Blanche combattait pour la lumière. Pourtant, quelques Aes Sedai ne niaient pas l'existence des sœurs noires. Elle ne l'aurait pas admis en public, mais le doute existait en elle. Moiraine aurait préféré se cacher qu'elle appartenait à cette catégorie.
« Je ne crois pas que ces personnes connaissent nos noms, »
dit Xuan, en jouant nerveusement avec les cordons de son sac à dos.
« Tamra ne nous a jamais vraiment impliqués dans cette affaire. Elle nous a dit de ne pas parler, c'est tout. Sinon, j'aurais déjà eu un... accident. Avant de partir, j'ai glissé un message sous la porte de Cyrine, pour lui exposer mes soupçons. Pas au sujet du garçon, mais de la Jeanne Noire. Mais pouvons-nous vraiment faire confiance à la chair d'Amerline ? Tu te rends compte de ce que je viens de dire ? N'importe qui peut appartenir à la Jeanne Noire. J'ai écrit de la main gauche pour plus de sécurité. En fait, je tremblais tellement que j'aurais pu utiliser la droite sans qu'on reconnaisse mon écriture. Que mon foie brûle en enfer. Même si nous savions à qui nous fier, nous n'avons pas de preuves convaincantes. Rien que du vent.
Moi, ça me suffit,
souffla Moiraine.
Si nos ennemis ont les noms de toutes les enquêtrices de Tamra, nous sommes peut-être les dernières à savoir pour le garçon. Par la lumière. Nous deux contre la Jeanne Noire. Si nous voulons trouver le garçon, il ne faut pas perdre de temps.
La partie semblait perdue d'avance. Combien de sœurs noires pouvait-il y avoir ? 20, 50, plus encore ? Pourtant, Moiraine avait parlé d'un ton résolu. Et son ami hocha la tête avec une grande détermination. Xuan ne baisserait pas les bras, même si elle laissait transparaître son angoisse. Et elle pensait que Moiraine ne renoncerait pas non plus. Ça, c'était exactement ce qu'il fallait pour lui remonter le moral. Surtout quand elle avait les genoux qui jouaient des castagnettes.
Les sœurs noires ignorent peut-être nos noms, et peut-être pas. Quoi qu'il en soit, nous ne devons nous fier qu'à nous-mêmes.
Moiraine blêmit soudain.
Xuan, je viens de faire une rencontre à l'auberge.
Moiraine raconta ce qui s'était passé, sans omettre un détail, à partir du moment où Meréane l'avait interpellée. Xuan l'écouta, concentré à l'extrême.
Katsuane peut appartenir à la Jeanne Noire,
dit-elle, quand Moiraine eut terminé.
Elle veut peut-être te neutraliser, jusqu'à ce qu'elle puisse t'éliminer sans éveiller les soupçons. Mais elle peut aussi être une enquêtrice de Tamra. Nous pensons qu'elle n'est plus venue à Tarvalon depuis 2 ans, mais comment en être sûr ?
Les sœurs entraient et sortaient discrètement de la tour. C'était incontestable. Mais Katsuane ? La notion de discrétion et elle semblait faire au moins 2.
L'ennui, continua Xuan, c'est que n'importe qui peut être dans n'importe quel camp.
Se penchant par-dessus son sac à dos, elle tapota le genou de Moiraine.
Tu peux sortir ton cheval des écuries sans qu'on te remarque ? J'ai une bonne monture, mais de là nous porter toutes les deux. Il faut filer, Moiraine, et être le plus loin possible d'ici quand ces femmes s'en apercevront.
Moiraine eut un petit sourire, malgré la gravité de la situation. Sur la bonne monture, elle avait un léger doute. Tout marchand habile aurait pu refiler à Xuan un cheval de trait bon pour la boucherie en le faisant passer pour un étalon. Et si elle n'était pas douée pour l'équitation, la fille de pêcheur n'avait pas non plus l'œil d'un maquignon. Chevaucher jusqu'à Kanloum avait dû être une expérience pénible pour elle, et terrifiante.
« Personne ne sait que tu es là, Xuan, et c'est très bien comme ça. Tu as ton carnet ? Parfait. Si je reste jusqu'à demain matin, j'aurai un jour d'avance sur mes poursuivantes, et pas quelques heures. Toi, pars sur le champ pour Chachin. Je vais te donner de l'argent. »
Vu l'état de sa robe, Xuan avait dû souvent dormir à la Belle Étoile. Avant son départ, elle n'avait certainement pas retiré une grosse somme à la banque de la tour, de peur d'attirer l'attention.
Commence à chercher Dame Inès. Moi, je te rejoindrai, après m'être occupé en chemin d'Aven Saïra.
Bien entendu, avec sa fichue fierté, Xuan commença par refuser l'argent.
J'en ai assez pour mes besoins,
marmonna-t-elle. Mais Moiraine insista pour lui donner la moitié de ce qu'elle avait sur elle. Après tout, durant leur premier mois à la tour, n'avait-elle pas juré que ce qui appartenait à l'une
était aussi à l'autre ?
Oui, marmonna Siouan. Nous avons aussi juré de rencontrer deux jeunes princes charmants, de les séduire et de les épouser. Les filles racontent tout un tas de bêtises.
Bon, fais attention à toi surtout. Si tu me laisses seul dans cette mouise, je te tordrai le cou.
Les deux jeunes femmes s'embrassèrent pour se dire adieu, et Moiraine eut du mal à supporter cette séparation. Une heure plus tôt, elle se demandait comment échapper au courroux de Cyrine et de quelle façon éviter le fouet. À présent, ses soucis étaient d'une toute autre nature. L'âge à noir. Y penser suffisait à lui donner la nausée, car elle n'avait pas le courage de Siouan. Regardant Siouan sortir du passage en ajustant son sac à dos sur ses épaules, Moiraine regretta de ne pas avoir choisi la Javert. Elle aurait adoré que 3 ou 4 champions surveillent ses arrières. Une fois dans la rue, elle ne put s'empêcher de regarder suspicieusement les passants des deux sexes. Si l'âge à noir était impliqué, tous les suppôts des ténèbres ordinaires devaient l'être aussi. À la tour, pas une sœur ne niait l'existence de ces hommes et de ces femmes, convaincus que le ténébreux leur donnerait la vie éternelle s'ils acceptaient de le servir, s'acquittant des plus basses besognes. Si n'importe quelle sœur pouvait appartenir à l'âge à noir, le quidam le plus inoffensif en apparence pouvait être un suppôt. Moiraine espéra que Siouan ne perdrait pas cette réalité de vue. Alors qu'elle approchait de la porte du paradis, une sœur en sortit. Enfin, en sortit en partie, car Moiraine aperçut seulement un bras et les franges d'un châle. Très brièvement, qui plus est. L'homme qui venait de sortir pour de bon, lui, un grand type avec deux nattes ornées de clochettes, se retourna pour parler quelques instants à la sœur invisible. Mais une main se montra, lui faisant signe de déguerpir. Il obéit, passant devant Moiraine, sans chercher à dissimuler son mécontentement. Si elle n'avait pas été en train de penser à l'âge à noir et au suppôt des ténèbres, Moiraine n'aurait accordé aucune attention à cet incident. Les Aes Sedai parlaient sans problème aux hommes, et certaines ne se contentaient pas de converser. Mais dans le contexte présent, hélas, elle n'avait pas vu la couleur des franges de si loin. Perplexe, elle franchit les 30 derniers pas qui la séparaient de l'établissement. Méréane et Larelle étaient assises à une table près de la porte, et toutes les deux portaient leur châle. Peu de sœurs se comportaient ainsi, sauf pour impressionner les gens. Toutes deux regardaient Katsuane se diriger vers le salon privé, suivi par deux hommes minces aux cheveux gris d'un âge plus que vénérable. La sœur verte arborait elle aussi son châle, la flamme blanche de Tarvalon brodée dans son dos, au milieu des habituels motifs végétaux. N'importe qui pouvait être dans n'importe quel camp. Mais Katsuane était peut-être en train de se sélectionner un champion supplémentaire. Les sœurs vertes ne cessaient jamais de chercher, semblait-il. Méréane ou Larelle pouvaient aussi être en quête d'un champion. Sauf si l'une ou l'autre en avait trouvé un après avoir quitté Tarvalon, elle n'en avait pas pour le moment. Le type croisé un peu plus tôt était peut-être en colère, après s'être entendu dire qu'il n'était pas à la hauteur. Consciente qu'il y avait une multitude d'explications, Moiraine décida d'oublier le sujet. Les menaces bien réelles étaient assez nombreuses pour qu'il n'y ait pas besoin d'en inventer. Elle n'avait pas fait 3 pas dans la salle commune quand Maître Elvin, l'aubergiste, l'intercepta. En tablier vert rayé, ce chauve, presque aussi large qu'il était haut, avait le don de taper sur les nerfs de Moiraine. Et il se montra fidèle à ses habitudes.
« Dame Alice, c'est justement vous que je voulais voir. 3 Aes Sedai sont descendus chez moi, et ça va m'obliger à redistribuer de nouveau les chambres. Étant donné les circonstances, vous ne verrez pas d'inconvénient à partager la vôtre, je suppose. Maîtresse Palan est une femme très agréable. »
Les circonstances? S'il ne s'était pas agi d'Aes Sedai, le bougre n'aurait jamais songé à ennuyer une noble dame, même si ça l'avait contraint d'entasser 10 marchands dans une seule chambre. Mais pour complaire à la Tour Blanche, il était prêt à tout. La preuve, puisqu'en réalité, il avait déjà fait déménager sa fichue maîtresse Palan. Moiraine voulut protester et se fit recevoir fraîchement.
« Si ça vous dérange, dame Alice, je vous encourage à aller vous plaindre à une des Aes Sedai, »
dit Elvin d'un ton très ferme. Un ton ferme avec elle? Quelle outrecuidance!
« Et maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je suis débordé de travail. »
Le goujat s'éclipsa sans même saluer Moiraine. Furieuse, elle faillit recourir au pouvoir pour lui flanquer une bonne calotte sur la nuque. Venue du Mourandi, avec une pointe d'accent de Lougarde, Aesel Palan gagnait sa vie en vendant des tapis. Dès qu'elle fut entrée dans la petite chambre naguère réservée à la seule Moiraine, elle commença à parler, racontant sa vie dans le détail. Agacée qu'on ait sorti ses vêtements de l'armoire pour les accrocher à une patère,
et qu'on ait enlevé son peigne et sa brosse de la coiffeuse pour faire de la place à ceux de Dame Palan, Moiraine se serait bien passé des confidences de la petite femme rondelette aux cheveux grisonnants. En principe, une marchande aurait dû garder ses distances face à une noble dame. Mais pas face à une naturelle, dont on disait qu'elle s'en irait dès le lendemain pour devenir novice à la Tour Blanche. Quand elle eut fini de babiller sur sa morne existence, maîtresse Palan entreprit d'éclairer la lanterne de Moiraine sur les devoirs d'une novice. Avec un bel aplomb, elle débita une série de contre-vérités et d'âneries pompeuses. Certains de ses conseils auraient grillé n'importe quel novice en moins d'une semaine, et les autres procédaient du délire pur et simple. Apprendre à voler comme un oiseau? Par la lumière, cette femme était folle alliée. Hélas, elle descendit dîner avec Moiraine et invita à leur table des collègues à elle qui se firent un plaisir de révéler à la future novice tout ce qu'elle savait sur la Tour Blanche. Ce qu'elles racontèrent ne tenait pas debout, mais Moiraine dut leur reconnaître une imagination fertile. Si elle avait pour de bon été une novice potentielle, ce dîner l'aurait convaincue de fuir le plus loin possible de la tour. Accablée, elle prétexta une migraine et se retira dans la chambre, où maîtresse Palan vint la retrouver avant qu'elle ait eu le temps de se changer. Infatigable, elle caqueta jusqu'à ce que le sommeil ait enfin raison d'elle. La nuit fut très pénible. Dans un lit étroit, dormir avec une femme au coude pointu et aux pieds glacés, malgré les épaisses couvertures qui ne retenaient pas trop mal la chaleur du petit poêle intégré au lit, n'avait rien d'agréable. Se jouer du froid était une chose, mais ignorer les pieds froids, en revanche. L'orage qui menaçait depuis le matin finit par éclater, un vent violent faisant claquer les volets pendant de longues heures. De toute façon, Moiraine aurait eu du mal à dormir paisiblement. L'âge à noir et les suppôts des ténèbres occupaient ses pensées. Dès qu'elle fermait les yeux, elle voyait Tamra, capturée en pleine nuit, être torturée puis tuée par des femmes qui n'hésitaient pas à utiliser le pouvoir comme une arme. Parfois, ces monstres arboraient le visage de Méréane, de Larel ou de Katswané. Au cours de la nuit, toutes les sœurs qu'elle connaissait défilèrent dans son esprit, transformées en tueuses. Et à l'occasion, elle se vit à la place de Tamra. Lorsque la porte s'ouvrit lentement en grinçant, peu avant l'aube, Moiraine s'unit à la source en une fraction de seconde. Le Saïdar se déversa si violemment en elle que la douceur et la joie habituellement associées à cette expérience ne furent pas loin de se transformer en souffrance. Dans un an, et plus encore dans 4 ou 5, Moiraine serait en mesure d'absorber une quantité de pouvoir 10 fois plus importante. Mais pour l'instant, elle n'était pas très loin de la surcharge, susceptible de dévaster son don, voire de la tuer. Aucune de ces options ne la séduisait, pourtant elle aurait voulu puiser plus de pouvoir dans la source. Et pas seulement parce que c'était un effet secondaire inévitable, lorsqu'on s'unissait au Saïdar. Katswané passa la tête dans la pièce. Moiraine avait oublié sa promesse de venir voir si elle était dans sa chambre, sa menace plutôt. Bien entendu, la sœur verte vit l'aura qui enveloppait sa jeune collègue, et elle sentit à quel point celle-ci jouait dangereusement avec ses aptitudes.
« Espèce d'idiote !»
lâcha-t-elle simplement, avant de s'en aller. Moiraine compta lentement jusqu'à 100, puis elle bondit hors du lit. Alors que maîtresse Palan, changeant de position, commençait à ronfler comme un sonneur, la fugitive se dit que cet instant en valait bien un autre. Prenant garde de ne pas faire de bruit, même si la marchande lui fournissait une couverture sonore, elle alluma une lampe avec un filament de feu et s'habilla à la hâte, choisissant une robe d'équitation bleu foncé, au col et aux manches ornées de broderies en fil d'or. Même à cette heure matinale, nul ne s'étonnerait de la voir déambuler en ville, sauf si elle portait sur une épaule des sacoches de sel. Du coup, elle emporta exclusivement les objets qu'elle put glisser dans les poches intérieures de sa cape. Sa brosse, son peigne, son nécessaire de couture, des bas de rechange et un chemisier propre. Le reste devrait être sacrifié. Mais avec l'argent qu'elle avait encore et les lettres de change, ce ne serait pas un problème. Lorsqu'elle ferma la porte derrière elle, maîtresse Palan ronflait toujours comme un soufflet de forge.